Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Le papillomavirus humain, aussi appelé PVH, est un virus particulièrement contagieux. 80% des hommes et des femmes sexuellement actifs entrent en contact avec un papillomavirus une ou plusieurs fois au cours de leur vie. Et pour plus de la majorité d'entre eux, 60%, l'infection a lieu au début de la vie sexuelle. Dans certains cas, l'infection va provoquer des lésions précancéreuses et des cancers, localisés notamment dans le col de l'utérus, mais aussi au niveau de l'anus ou de la gorge. Selon l'OMS, le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, le deuxième dans les régions les moins développées. En 2018, plus de 310 000 femmes ont succombé à un cancer du col de l'utérus et à plus de 85% dans des pays en développement. Pour lutter contre ce cancer féminin, plusieurs degrés de prévention existent. La vaccination, préconisée entre 9 et 14 ans chez les jeunes filles n'ayant pas encore eu de rapport sexuel, le dépistage, par frottis, et le traitement des lésions précancéreuses chez les femmes à partir de 30 ans. Le papillomavirus, un ennemi invisible donc, car le plus souvent sans symptômes. Alors quelles sont les différentes infections provoquées par le PVH? Comment favoriser l'accès à la vaccination? Quelle différence de prise en charge du cancer du col de l'utérus au niveau international? Quel traitement en cas de contamination et d'infection associée? Tour d'horizon avec nos invités. Papillomavirus, pour en parler en studio avec nous aujourd'hui, professeur Jean Gondry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique au CHU Amiens-Picardie et président de la Société française de colposcopie et pathologie cervico-vaginale. Nous retrouverons tout à l'heure en direct de la Côte d'Ivoire le professeur Serge Bonny, chef du service de gynécologie obstétrique au CHU de Cocody à Abidjan. Et en fin d'émission, la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Jean Gondry, pour commencer, qu'est-ce que le papillomavirus et comment peut-on le contracter?
Le papillomavirus est un virus de petite taille, connu depuis très très longtemps, puisqu'il existe dans le monde depuis pratiquement toujours, et qui va contaminer l'ensemble de la population normalement constituée, dirais-je. Ce virus est tout à fait bénin, asymptomatique, il y en a à peu
sans
près...
Sans symptômes, donc.
Sans symptômes, à peu près 140 types connus aujourd'hui, et j'aime bien dire d'emblée que celui qui donne des verrues sur les doigts, sur les pieds, c'est du papillomavirus humain. Et quand on dit ça, on comprend que tout le monde peut dans sa vie avoir une pathologie induite par le papillomavirus, sans être pourtant une population particulière.
Est-ce qu'on peut dire que le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible?
Le papillomavirus, comme je viens de vous le dire, sur le doigt ou sur le pied, n'est pas une pathologie sexuellement transmissible. Certains des virus sont sexuellement transmissibles puisqu'ils vont infecter la filière génitale, essentiellement la vulve, le vagin, la vulve, voire l'anus et la gorge. Mais en dehors de cela, d'autres papillomavirus ne sont pas sexuellement transmissibles. Donc c'est bien ceux qui nous intéressent aujourd'hui qui sont dits sexuellement transmissibles, effectivement.
Et quel est le risque de se faire infecter?
Alors d'une part, l'infection n'est pas un risque en soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu a une capacité à se défendre plus ou moins efficacement contre la présence de ce papillomavirus.
Selon son immunité, vous voulez dire?
Son immunité, ses capacités à se débarrasser ou à laisser ce virus inopérant. La difficulté est quand ce virus a la capacité de rentrer dans la cellule et de la transformer. tant qu'il est dans votre organisme, c'est-à-dire au niveau génital, mais qu'il n'est pas rentré dans les cellules, il n'y aura aucun et jamais aucun symptôme et aucun risque particulier. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que pour la majorité des gens, être porteur de papillomavirus, ça veut déjà dire être porteur d'un futur cancer, ce qui n'est absolument pas la réalité des choses.
Et les virus du papillomavirus se divisent en deux grandes familles, professeur Jean Condry. Les uns donc affectent la peau et les seconds les muqueuses.
Oui, enfin le papillomavirus en général infecte ces sites, effectivement.
Et comme vous l'avez dit, certaines infections sont bénignes.
Alors, au moins la moitié des infections génitales, si on reste dans notre domaine aujourd'hui, sont effectivement bénignes. C'est ce que chacun connaît sous le nom de condylome. Ce sont des petites excroissances comme des verrues qu'on aurait sur les doigts ou les pieds. Ces petites verrues ne sont absolument pas, n'ont pas de capacité à devenir des cancers. C'est vraiment tout à fait bénin, peut-être déplaisant, mais absolument bénin.
Par contre, d'autres infections peuvent donc évoluer vers un cancer, surtout en l'absence de suivi, notamment le cancer du col de l'utérus, mais pas seulement. On parle aussi du cancer de l'anus ou du vagin.
Absolument. C'est donc ce même type de virus, notamment les numéros 16 et 18 qui sont les plus fréquemment retrouvés, notamment le 16 chez les femmes les plus jeunes. Ce virus a la capacité, si l'immunité le permet, de rentrer dans la cellule, de transformer le gène, pratiquement le génome de la cellule, et de la transformer. C'est à partir de cette transformation qu'un mécanisme peut se mettre en place et qu'en une dizaine d'années, ce tissu au niveau du col de l'utérus va potentiellement devenir un cancer.
Donc un cancer du col peut mettre jusqu'à 15-20 ans à se développer chez les femmes dotées d'un système immunitaire normal.
Alors je dirais que même chez une patiente, la durée est une moyenne, 10-15 ans effectivement, pour que le mécanisme de transformation de la cellule jusqu'au cancer, c'est-à-dire qu'il a dépassé ce qu'on appelle la membrane basale, qui met le système en contact avec l'ensemble de l'organisme, et là on appelle ça cancer invasif effectivement, mais il est précédé d'une dizaine d'années de lésions que l'on va dire pré-invasives, qui sont finalement des verrues transformantes sur le col. Il suffit de les enlever pour ne pas avoir de cancer.
Au Sénégal, par exemple, le cancer du col de l'utérus est le premier cancer gynécologique. Il vient même avant le cancer du sein. Qu'en est-il en France ?
Alors en France, la situation n'est pas tout à fait identique, puisqu'effectivement, avec 3000 nouveaux cancers du col tous les ans, on est loin des 50-60 000 cancers du sein chez les femmes. Et ceci dit, il faut bien rappeler que c'est aussi grâce au dépistage fait en France, et notamment par le frottis fait depuis un peu plus de 30 ans, qu'on a vu l'incidence et le nombre de cancers réduire de plus de moitié. On était à 5-6 000 il y a, dans les années 80, un peu avant, et aujourd'hui on est à 3 000 cancers invasifs. Et ces 3 000, dans trois quarts des cas, ils sont liés au défaut de dépistage, c'est-à-dire que c'est une population qui ne va pas faire de frottis.
On va reparler du dépistage dans un instant, mais d'abord je voudrais savoir, professeur Condry, quels sont les symptômes des papillomavirus dits à risque ?
Il n'y a aucun symptôme. Au stade infection, aucun symptôme. Au stade pré-cancer, aucun symptôme. Ce n'est qu'au stade de symptômes de cancer invasif qu'un symptôme, que sont les saignements provoqués, notamment par les rapports sexuels, est un signe d'alerte évoquant un cancer déjà invasif. Mais auparavant, seul le dépistage peut apporter le diagnostic.
Donc vous le dites, un suivi régulier est indispensable pour prévenir tout risque de complications. On parle donc du dépistage. En quoi ce dépistage consiste, professeur Condry ?
Nous sommes en fin 2019 et je dirais pour la France aujourd'hui, puisque ça varie un peu en fonction des pays et aujourd'hui il y a beaucoup de changements, pour la France aujourd'hui, le dépistage consiste en un frottis entre 25 et 65 ans à la fréquence d'un prélèvement tous les 3 ans.
Alors on l'explique quand même, le frottis c'est un acte gynécologique qui est indolore mais assez invasif, car il s'agit d'un prélèvement de cellules, souvent à l'aide d'une petite spatule au niveau du vagin.
au niveau même du col. Après mise en place d'un spéculum, c'est même une petite brossette. Maintenant, les spatules ne sont plus utilisées. Une petite brossette qui, avec 2-3 tours de spire au niveau du col, permet de prélever ces cellules qui vont être mises dans un milieu liquide et envoyées au laboratoire.
Alors, pour bien insister, bien comprendre, il faut faire un frottis, un dépistage tous les 3 ans, y compris en l'absence d'éventuels symptômes.
Surtout en l'absence de symptômes. Au stade de symptômes, le frottis n'a pratiquement déjà plus sa place, puisque là, on est au stade d'un diagnostic éventuel de cancer, et ce n'est plus le frottis qui va nous permettre ce diagnostic.
Alors, dans les pays en développement, l'accès limité à ces mesures de prévention signifie que la maladie n'est souvent pas diagnostiquée avant que les symptômes apparaissent. Comment faire lorsqu'on n'a pas accès à un gynécologue ?
Alors, effectivement, c'est un problème mondial, hein, puisque nous avons parlé de la France avec les 3000 cancers, les 500 000 au niveau mondial sont bien plus importants. Et effectivement, la difficulté dans les pays où le dépistage n'est pas possible, pas organisé, parce qu'il n'y a pas de gynécologue, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'anatomopathologiste pour examiner les prélèvements, qu'il n'y a pas de thérapeute éventuellement. Il y a d'autres techniques de dépistage qui consistent, de façon plus simple, à colorer le col avec des produits, de voir les réactions et éventuellement de prélever directement si les réactions sont positives. Mais c'est une démarche tout à fait différente qui ne passe plus par la cytologie.
Mais est-ce qu'on peut quand même passer par un médecin généraliste ou une sage-femme, par exemple ?
Alors, en France, la réponse est clairement oui. Les généralistes, les sages-femmes sont invités à participer largement au dépistage qui, d'ailleurs, est en train de se mettre en place de façon très organisée en France à partir des régions. En 2018, cette organisation a démarré et en 2020, elle devrait être effective avec les premières invitations envoyées aux patientes qui n'ont pour l'instant pas bénéficié de frottis depuis 3 ans.
Alors, professeur Gondry, si le frottis, si ce dépistage révèle des anomalies, quelles sont les étapes suivantes ?
Aujourd'hui, nous sommes, et c'est un petit peu mon introduction tout à l'heure, à une période d'évolution, donc nous restons au frottis, mais demain, ce sera le test HPV en dépistage primaire de première intention. Ceci dit, la technique va être la même, c'est-à-dire qu'on a un prélèvement fait au cabinet. En fonction du résultat positif ou négatif, soit il est négatif et la patiente repart dans une surveillance tous les 3 ans pour le frottis, tous les 5 ans pour le test HPV. Si le frottis est positif ou le test HPV positif, la patiente va devoir subir une deuxième exploration de deuxième intention que l'on appelle là la colposcopie, qui est l'examen du col au microscope, après mise en place du spéculum et de mise en place de colorants, on examine au microscope le col. En fonction des
réactions, chercher des lésions.
On a des images qui blanchissent, qui deviennent jaunes, et ces images vont être biopsiées sous colposcopie, et on aura donc la réponse. S'agit-il d'une lésion bénigne, avec les mêmes virus, c'est possible. Et ces lésions seront juste surveillées. S'agit-il d'une lésion pré-cancéreuse, dite de haut grade, et ces lésions doivent être traitées.
Vous restez avec nous, professeur Gondry. Tout de suite, on va donner la parole aux auditrices et auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et on commence avec une auditrice, Fatima, qui nous appelle du Bénin. Bonjour Fatima.
Bonjour Raphaël.
On vous écoute.
D'accord. Et lors d'un séjour aux États-Unis il y a 2 ans, j'ai été dépistée. J'ai fait le test HPV et lors d'une consultation classique chez un gynécologue. Et le test était positif. Lors de la même consultation, j'ai été aussi dépistée positive au VIH. Donc, j'ai quelques questions pour le docteur.
Allez-y.
La première question, c'est est-ce que le VIH est un facteur aggravant du papillomavirus? Et lors du dépistage, on m'avait dit que je devais faire le test toutes les 1 an, alors que généralement, on dit que c'est tous les 3 ans qu'il faut faire le test. Donc, j'aimerais savoir si, étant donné que je suis séropositive, je devais faire le test beaucoup plus fréquemment. Et éventuellement, si je souhaiterais avoir un enfant, Est-ce que la maladie se transmettrait à l'enfant? Je parle du HPV, plus précisément.
Merci Fatima pour vos questions. Vous êtes retournée au Bénin aujourd'hui ou vous êtes toujours aux États-Unis?
Non, je suis au Bénin aujourd'hui.
D'accord. Professeur Gondry, qu'est-ce que vous pouvez répondre, conseiller à Fatima?
Bonjour madame. Eh bien, les réponses sont, pour certaines en tout cas, connues. La séropositivité HIV diminue vos défenses immunitaires et par ce biais-là, le papillomavirus peut effectivement transformer plus facilement les cellules qu'une population qui est HIV négative. C'est dans ce sens-là qu'une recommandation de surveillance annuelle, particulièrement pour vous ou pour toutes les patientes qui ont une immunodépression, que ce soit par une pathologie ou par un traitement immunosuppresseur, vont être surveillées non pas tous les 3 ans, mais bien tous les ans, effectivement. En ce qui concerne la contamination, il faut quand même bien comprendre que être porteur d'HPV n'est pas une alerte épouvantable. 20% de la population, à peu près, en moyenne, est porteur d'HPV. Donc, on ne fait pas partie de l'exception du tout. Il faut bien comprendre cela aussi. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de transmission connue aujourd'hui, en tout cas, au niveau de la naissance pour le papillomavirus. Donc, il n'y a pas de contre-indication à être enceinte, accouchée par les voies naturelles lorsqu'on est porteur d'un papillomavirus, absolument pas.
Et il y a une autre question, professeur Gondry, que Fatima a soulevée. Est-ce que le papillomavirus a des conséquences sur la fertilité?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences connues sur la fertilité par le papillomavirus. De façon indirecte, le papillomavirus peut avoir des conséquences sur la grossesse. Parce que si une lésion précancéreuse est mise en évidence chez une femme non enceinte, le traitement va consister à l'ablation d'une partie du col, ce qu'on appelle la conisation. Cette conisation peut avoir des conséquences sur la durée de la grossesse, c'est-à-dire qu'on augmente un peu le taux d'accouchement avant 37 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences directes sur la fertilité et la capacité d'être enceinte, mais quand même des conséquences sur la grossesse avec un taux un peu plus important d'accouchement avant 37 semaines, avant 8 mois.
Il y a des conséquences sur la fertilité, il faut le dire, uniquement en cas d'ablation, en fait, du col de l'utérus.
Oui, sauf que dans notre pathologie précancéreuse, il n'y a pas d'ablation du col de l'utérus. Ce ne serait que pour un cancer que ce serait fait.
Fatima, est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Oui, mais je voudrais quand même rappeler que je n'ai pas pu faire le test depuis 2 ans. Est-ce que c'est vraiment alarmant? Puisque où je vis, c'est pas possible de le faire. Il faut aller jusqu'à la capitale alors que je suis vraiment très loin de là. Et j'aimerais savoir si c'est vraiment inquiétant de n'avoir pas refaire le test jusqu'à présent.
Alors, le test HPV, je ne pense pas du tout que ce soit essentiel de l'avoir fait tous les ans. C'est plutôt la surveillance du col une fois par an qui paraît très plus intéressante dans votre situation, soit par un prélèvement, soit par une étude au microscope avec l'acide acétique, tout simplement. Je ne sais pas trop comment c'est pratiqué chez vous aujourd'hui.
Merci beaucoup Fatima pour vos questions et on vous souhaite une belle journée au Bénin. Et tout de suite, on passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où on rejoint Fatou. Bonjour Fatou.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Bonjour professeur.
Bonjour,
en fait, mon mari et moi, on a eu des verrues il y a quelques années. Et on est allé chez un docteur qui nous les a enlevées. Et il nous a prescrit Immunoplex N sur 3 mois. Et ben, après le traitement, 2 mois après, mon chéri a encore eu des verrues, mais pas moi. On les a enlevées et voilà, 5 ans après, et on découvre chez lui un problème d'infertilité. Et une immobilité au niveau des spermatozoïdes et aussi une malformation au niveau des spermatozoïdes. Là, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas ce HPV qui est responsable en fait du problème d'infertilité de monsieur, ou bien et j'ai lu aussi sur le net que c'est un virus qui reste dans le sang, qui ne se guérit pas. Est-ce possible? Parce que le docteur nous a dit que si on utilisait Immunoplex N, que tout allait partir, que en fait ça allait détruire tout le virus dans le sang, en fait. Voilà ma préoccupation.
Merci Fatou pour vos questions. Je me permets une petite réflexion. Attention à ce qu'on lit sur Internet. Professeur Gondry, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Fatou ?
Je pense qu'il y a deux réponses importantes à présenter. D'une part, les lésions dont vous avez été atteinte ainsi que votre mari sont des lésions tout à fait bénignes. Ce sont des lésions comme des verrues sur le doigt ou le pied. Ça va pas, les condylomes ne deviennent jamais des cancers. Le traitement est efficace, mais les récidives sont possibles. Puisqu'on se débarrasse de la lésion, on ne se débarrasse pas obligatoirement du virus qui peut toujours être présent et se remanifester par des condylomes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui connu de relation entre une infertilité masculine et la présence d'HPV. Ça, vraiment, aujourd'hui, je peux affirmer que ce n'est pas connu. Maintenant, dans 10 ans, on dira peut-être d'autres choses, mais aujourd'hui, absolument pas de relation. Mais la troisième chose importante, c'est que vous parlez de présence de virus dans le sang. Il faut bien comprendre qu'il n'y a quasiment pas de virus dans le sang. Le virus, il reste bien dans la filière génitale. Donc, il n'y a pas de virémie comme quand on a d'autres affections virales. C'est pas du tout pareil. Hein. L'affection est bien, et c'est bien pour ça que ça ne se développe qu'au niveau génital. C'est parce que le virus, il reste en place à cet endroit-là et pas du tout, il va pas se promener dans le sang et contaminer l'ensemble de l'organisme.
Fatou, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Ben oui, oui, oui.
Merci.
Merci bien.
Et on vous souhaite une belle journée à Abidjan. Nous
Merci.
Avons. Bonne journée. Nous rejoignons Loco qui est à Lomé au Togo. Bonjour Loco.
Bonjour Raphaël, bonjour professeur.
Bonjour madame.
Monsieur, vous avez un témoignage, je crois, à nous apporter.
Oui, c'est un témoignage par rapport à notre descente sur le terrain.
On vous écoute.
Oui, on est parti du constat selon lequel, généralement dans nos communautés, le cancer est très méconnu, surtout le cancer féminin. Alors, apporter les bonnes informations, c'est cette mission que nous sommes assignés à Katetea Togo. Écoutez, lors de notre dernière mission dans le Lyon, c'est-à-dire environ 60 km de la capitale Lomé, on constate que très peu de femmes sont au courant des cancers du col de l'utérus, notamment les infections liées au HPV. Alors, lorsque nous avons parlé des vaccins et tout, elles étaient stupéfaites parce qu'elles n'avaient aucune connaissance du vaccin. Quand on sait que ce vaccin est d'ailleurs efficace lorsqu'il est administré entre 9 et 14 ans avant le premier rapport sexuel. Voilà.
Je précise, Loco, que vous travaillez pour une association qui s'appelle Katsasa, c'est ça ? Ce qui veut
oui,
dire
Katsasa.
Lien Togo, qui veut dire lien de solidarité. Donc, si j'ai bien compris, une de vos questions, c'est au sujet du vaccin. Et surtout, vous vouliez savoir ce que vous avez dit au Standard la semaine dernière. Si le virus peut se transformer en cancer chez les hommes également, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Il y a ça aussi et sur le vaccin. Voilà.
Merci beaucoup, professeur Gondry. C'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle du cancer féminin. Dans quelle mesure les hommes sont-ils concernés ?
Ils sont autant concernés que les femmes dans la pathologie papillomavirus induit. Tout simplement parce que hommes et femmes sont des réservoirs. Si les femmes sont contaminées, ce sont les hommes qui l'ont apporté. Si les hommes sont contaminés, c'est les femmes qui l'ont apporté. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde est concerné par cette filiation et cette contamination. Donc, idéalement, et les choses sont très claires dans les pays où cela a été mis en place, la vaccination, on va dire garçon, fille, naïf à 11 ans, serait aujourd'hui la meilleure solution pour réduire ces cancers. Et c'est ça le drame du cancer du col, mais aussi des autres dont on va parler, c'est que ce sont des cancers évitables. On a parlé du cancer du sein fréquent. C'est vrai que c'est fréquent, mais on a un dépistage précoce, on n'a rien pour éviter. On a en revanche pour les pathologies HPV aujourd'hui une arme forte et qui a fait ses preuves. C'est donc la vaccination et idéalement, il faut vraiment vacciner tout le monde pour que chacun profite de cette vaccination.
Merci beaucoup, Loco, pour votre question, votre appel, votre témoignage et surtout pour votre aide sur le terrain dans les zones rurales. C'est ce que vous avez essayé de nous expliquer. La ligne n'était pas très bonne à cause de la pluie à Lomé, mais on vous souhaite en tout cas une belle journée au Togo. Merci à tous pour vos appels, vos messages et vos témoignages.
RFI.
Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire que je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Chez l'homme, bien entendu, les cancers liés à l'HPV existent aussi au niveau de l'anus, en même fréquence que chez la femme, et au niveau de l'oropharynx, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'à peu près 50% de ces cancers sont liés au papillomavirus. Donc, vraiment, tout le monde est concerné par cette pathologie.
Vous écoutez donc Priorité Santé sur RFI. Nous parlons du papillomavirus avec vous, professeur Gondry. Le HPV, cette infection transmissible, responsable notamment du cancer de l'utérus chez les femmes, mais aussi d'infections bénignes. On le dit depuis quelques minutes, la prévention passe par le dépistage, mais aussi par la vaccination en France et dans le monde. Professeur Gondry.
Absolument. Encore une fois, dans la France, 3000 cas, ça peut paraître pas grand-chose, mais 500 000 cas au niveau mondial, c'est considérable. Le deuxième élément, c'est que ça touche des gens jeunes. C'est vraiment le pic d'incidence du cancer du col en France, par exemple, c'est 40 ans. Donc ce sont des cancers évitables chez des gens jeunes qui ont encore des familles, qui ont des choses importantes à faire de leur vie. Et c'est vraiment dommage de ne pas aujourd'hui réduire encore cette incidence de cancer qui tue. Puisque sur les 3000 cancers, un tiers en France va mourir. Et la moitié des cancers dans le monde vont mourir de leur cancer. Donc c'est vraiment un impact considérable.
Alors je vous propose d'écouter les interrogations d'une jeune auditrice, Juliette, qui nous a appelé de Paris en France la semaine dernière.
Je m'appelle Juliette, j'ai 16 ans.
Et vous avez des questions sur le papillomavirus?
Oui, c'était juste pour savoir en quoi un peu consistait le vaccin et qu'est-ce que c'est le papillomavirus aussi. Quels sont les risques du vaccin, quoi?
Les risques et les effets secondaires, c'est ça?
Oui.
Et est-ce que c'est un médecin qui vous en a parlé ou est-ce que vous en avez parlé avec vos parents?
C'est mon médecin généraliste.
Et en quoi votre médecin vous a spécifiquement conseillé de le faire?
Il ne m'a pas conseillé, il m'a dit « tu peux le faire si tu en as envie ». Il m'a dit qu'il y avait des effets secondaires, mais il ne m'a pas vraiment dit lesquels. Et il m'a dit que tout le monde ne le faisait pas, que ce n'était pas obligatoire.
Sans vous expliquer pour autant ce qu'était le papillomavirus, c'est ça?
Oui, non.
Merci Juliette, merci de nous avoir appelés, merci pour votre témoignage et on vous souhaite une bonne journée à Paris. Professeur Jean Gondry, qu'est-ce qu'on peut répondre à Juliette?
Alors, la vaccination aujourd'hui a fait les preuves de son efficacité dans les pays où, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, filles sont vaccinées vers l'âge de 11-14 ans et plus récemment les garçons associés. Si on prend des exemples qui sont très proches de nous, je vais prendre l'exemple de l'Écosse, parce que là, 90% de la population est vaccinée, c'est un petit pays qui sont parfaitement suivis, l'incidence des lésions précancéreuses liées au papillomavirus que l'on retrouve dans la vaccination a disparu chez les jeunes filles, évidemment, qui ont été vaccinées. Donc c'est vraiment un impact aujourd'hui clinique, visible, mesurable, et ce ne sont pas des études de laboratoire, c'est bien des études en population réelle. Aujourd'hui, en France, moins de 20% des gens sont vaccinés. Il est évident que l'on ne peut absolument pas avoir d'impact de la vaccination dans la population générale. Mais nos voisins, vous prenez le Portugal, c'est 85%, l'Angleterre, 90%. Donc on est vraiment isolé dans l'Europe par la Roumanie qui est à peu près comme nous. Mais je ne sais pas pourquoi en France, ce vaccin n'est pas plus utilisé, d'autant qu'il est recommandé et remboursé, ce qui n'est pas le cas de tous les pays.
Le cas dans le monde, effectivement. Donc, et il y a d'ailleurs certains pays comme les États-Unis ou l'Australie, l'Italie, la Norvège qui ont commencé à vacciner les garçons également.
Oui, c'est la logique, absolument. Je pense qu'il y a 10 ans... Le coût, parce que ça représente un coût, un investissement, le coût du vaccin. Et je crois que les gouvernements ont un petit peu réfléchi à qui vaccine-t-on ? Et puis finalement, je pense que notamment l'Australie a bien compris qu'en vaccinant tout le monde, toutes ces pathologies, aussi bien chez l'homme que chez la femme, allaient disparaître. Et ils espèrent voir disparaître dans 10 ans l'ensemble de ces pathologies. Donc c'est un progrès considérable. La France est dominée un peu par un lobbying anti-vaccin, je ne sais pas pourquoi, parce que le papillomavirus est un vaccin comme tous les autres vaccins, il n'y a pas plus d'effets secondaires, il a en revanche énormément d'effets positifs. L'effet particulier de ce vaccin par rapport aux autres, c'est peut-être une douleur ressentie plus importante au site d'injection, c'est connu, ma foi, bon, on sent ça sur le moment, mais si c'est pour se prévenir pour la vie, prévenir soi et son entourage, ça me paraît essentiel.
Exemple, dans l'actualité internationale, le Kenya vient de prendre des mesures cruciales justement de lutte contre le cancer du col de l'utérus en introduisant le vaccin contre le papillomavirus humain dans son calendrier de vaccination systématique. C'est également d'ailleurs bientôt le cas du Sénégal. On peut dire que c'est un exemple à suivre, professeur Gondry.
Alors, c'est un exemple s'il est suivi des faits, puisqu'en France, c'est aussi dans les recommandations vaccinales depuis 2007. Et malheureusement, avec un taux de vaccination qui est monté à un peu plus de 30%, et puis depuis 2011, une chute considérable liée aux plaintes. Alors, je voudrais juste, parce que j'ai pensé à ça il y a quelques jours, j'ai été en consultation avec une patiente, mère de plusieurs filles, dont une de 14 ans, et comme à l'habitude, je lui demandais « Avez-vous vacciné vos filles ?» Et la patiente me dit « Non, on en avait parlé l'année dernière, mais je ne l'ai pas fait. » Et je lui dis, mais pourquoi ? Ben, elle me dit, j'avais peur des maladies. Et justement, ma fille vient de développer une sclérose en plaques. Donc je lui dis, madame, vous êtes l'exemple type d'une patiente qui m'aurait dit, c'est à cause du vaccin que ma fille a eu la sclérose en plaques. Et elle m'a dit, oui, vous avez raison, c'est vrai, je peux le comprendre. Hein. Mais aujourd'hui, en France, il est prouvé qu'il n'y a pas plus de sclérose en plaques dans la population vaccinée que dans la population non vaccinée. Malheureusement, ça n'évite pas la sclérose en plaques, bien entendu.
La prévention, la prise en charge, l'accès aux services de soins dépendent évidemment des régions où on se trouve dans le monde. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction de la Côte d'Ivoire.
Priorité santé. Sur RFI.
On retrouve le professeur Serge Bonny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Cocody à Abidjan. Professeur Serge Bonny, est-ce que vous avez des chiffres sur la proportion de femmes touchées d'abord par le papillomavirus et ensuite par le cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire ?
Des chiffres, c'est sûr, la proportion des femmes touchées par le cancer du col, j'en ai, puisqu'il y a le registre du cancer qui est suivi. C'est le deuxième cancer de la femme en Côte d'Ivoire, après le sein, mais c'est le premier cancer en termes de mortalité. Mm-hmm. Et c'est 28,6 pour 100 000 femmes en termes d'incidence et 24 pour 100 000 femmes en termes de décès. Quand on regarde la prévalence sur 5 ans, il y a eu environ 22 854 cas de cancer, mais il y a eu quand même 10 000 cas de décès. C'est pour dire que c'est un fardeau, le cancer du col. Bon, maintenant, en termes d'incidence du papillomavirus, il y a une étude qui a été faite en consultation, évaluer l'incidence. C'est à peu près 53% des femmes qui en avaient consulté, mais c'est en secteur hospitalier, donc il y a un peu un biais. On ne peut pas l'étendre à l'ensemble de la population.
Et professeur Serge Bonny, le papillomavirus, est-ce que c'est un problème de santé tabou en Côte d'Ivoire ?
Non, ce n'est pas un problème de santé tabou. C'est un problème qui est évoqué, qui est connu, mais il n'y a pas une frange importante de la population qui en parle, c'est surtout les intellectuels, même dans le domaine médical. Hein, nous avons, nous, organisé la Société de gynécologie de Côte d'Ivoire une réunion scientifique le 12 octobre dernier, à laquelle nous avions invité d'ailleurs Madame Bergeron, que certainement mon confrère, le professeur Gondry, connaît.
Mais oui.
On s'est rendu compte que même dans le milieu des médecins, c'est pas toujours un problème qui est connu et qui est évoqué.
Et voilà. Combien de gynécologues êtes-vous à Abidjan et en Côte d'Ivoire?
Autour de 400 gynécologues. Mais le vrai problème par rapport au dépistage du cancer du sein, c'est le nombre de cytopathologistes.
Cancer du col, vous voulez dire?
Du cancer du col, pardon. Mmh. C'est le nombre de cytopathologistes. Pour une population de 25 millions d'habitants, dont 51% de femmes, il y a tout au plus une quinzaine de cytopathologistes et de cytotechniciens. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas, avec ça, organiser des dépistages de masse.
Alors justement, comment la prévention, j'entends dépistage et vaccin, est-elle prise en charge en Côte d'Ivoire?
Tout à fait. Alors, dépistage. Le professeur Gondi a parlé tout à l'heure des méthodes visuelles. Inspection visuelle à l'acide athlétique et inspection visuelle au Lugol. C'est ce qui est promu par le programme national de lutte contre le cancer, où il y a eu un grand effort de formation des médecins, des sages-femmes, voire des généralistes, pour pouvoir faire cela. Et le programme national de lutte contre le cancer dispose à peu près de 400 centres, dont 68 à peu près disposent également de la colposcopie et peuvent faire du traitement immédiat, cryothérapie ou résection à l'anesthésie thermique ou vaporisation laser.
Et est-ce que le frottis est régulièrement pratiqué ou est-ce qu'il y a un problème d'accès financier?
Un dépistage individuel et opportuniste, comme on le dit, le frottis est pratiqué. Le frottis est pratiqué, mais le taux de femmes qui pratiquent le frottis n'est pas très élevé. Je pense que ça couvre, comme a dit le professeur Gondi, à peu près 20%. Mais ça, c'est surtout dû au nombre de pathologistes que nous avons en Côte d'Ivoire pour lire les lames.
C'est pas un problème culturel ou financier?
Non, il y a beaucoup de campagnes d'information qui sont menées, tant du point de vue de l'autorité ministérielle que des ONG, que le gouvernement, le ministère soutient, pour sensibiliser la population féminine à l'importance du cancer du col et à l'intérêt de se faire dépister. Parce que justement, le cancer du col a cette particularité-là, c'est que dépisté tôt, au stade de lésion précancéreuse, il est complètement guéri. Et c'est la voie pour nous, les pays africains, que de faire le dépistage et le diagnostic précoce. Parce que malheureusement, les taux de décès que je vous ai donnés en début d'émission, c'est parce que 70% de nos cas sont diagnostiqués au stade avancé.
Et où en est la vaccination contre le papillomavirus en Côte d'Ivoire?
La vaccination se fait. La vaccination se fait, c'est une vaccination, comme j'ai dit aussi, qui est individuelle, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de... Mais il y a des bonnes nouvelles qui sont annoncées. Je ne voudrais pas anticiper sur les annonces qui doivent être faites par les autorités officielles. Mais il y a de très très bonnes nouvelles qui vont être annoncées relativement à la vaccination. Et je pense que dans le courant de l'année 2020, sinon dans les mois à venir, les petites filles ivoiriennes à partir de 9 ans pourront bénéficier, je pense,
du vaccin.
Du vaccin. Voilà.
Et est-ce qu'on vaccine les garçons en Côte d'Ivoire?
Non. Les garçons... ne sont pas intégrés dans un programme de vaccination en tant que tel. Et malheureusement, pour l'instant, on se concentre surtout sur les petites filles et les garçons ne sont pas intégrés, à moins de le faire de façon individuelle. Mais on est en ce moment-là confronté au coût élevé du vaccin. Et c'est pas rien.
C'est combien, c'est-à-dire le coût?
Le Gardasil 9, c'est-à-dire le nonavalent, il est autour de 140 000 Français, pas, un peu plus d'ailleurs. Mm. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais il est relativement cher et ce n'est pas à la portée de
tout le monde.
L'Ivoire.
Est-ce que pour conclure, vous auriez un message en quelques mots de prévention à faire passer à la population, professeur Bonny?
Ben le message de prévention essentiel, c'est un message de sensibilisation à l'ensemble de la population féminine, c'est-à-dire de, qu'elles viennent faire leur dépistage, et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'elles viennent avec leurs filles, et qu'elles viennent avec leurs filles pour que cela nous donne l'opportunité de vacciner aussi les filles. Mmh. C'est un problème tellement important que nous avons bientôt le congrès de la Société de gynécologie obstétrique à Yamoussoukro du 6 au 9 novembre. Et nous avons encore invité Mme Bergeron. Et là, elle pourra parler à l'ensemble de la communauté des gynécologues et des sages-femmes. Et nous focalisons notre action sur la sensibilisation, sur le dépistage, l'intérêt du frottis, du test HPV qui va être bientôt disponible en Côte d'Ivoire. Et voilà les grands axes de l'action que nous menons pour que justement le fardeau du cancer en Côte d'Ivoire, le cancer du col notamment, soit relativement réduit.
Merci beaucoup, voilà. Professeur Serge.
Je voudrais vraiment vous remercier et saluer mon confrère, le professeur Gondry, qui a vraiment tout dit par rapport au cancer du col et par rapport à Human papillomavirus.
Merci beaucoup, merci. Professeur Serge Bonny, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de service gynécologie obstétrique au CHU de Cocody à Abidjan.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Professeur Gondry, en deux mots, est-ce que vous voulez réagir à ce que nous a dit votre confrère, professeur Serge Bonny, en Côte d'Ivoire?
Alors non, j'admire toute la détermination et l'engagement qu'il a pour prévenir ce cancer, qui effectivement est encore plus dramatique dans les pays africains que chez nous. Je sais la difficulté que peut représenter une organisation dans l'ensemble des pays, puisque déjà en France, pour mettre en place le dépistage, ça fait 2 ans, et je peux vous dire qu'on n'y est toujours pas. J'imagine que les difficultés sont encore plus importantes en Côte d'Ivoire et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour la population.
Alors très rapidement, on n'a pas encore évoqué l'aspect psychologique de cette infection. Est-ce qu'il y a une forme de stigmatisation autour de cette infection ?
Oui, certainement, parce que comme c'est dans la zone entre guillemets génitale sexuelle, évidemment, ça a une connotation sexuelle et longtemps, on a pensé que c'était, j'allais dire, les filles de mauvaise vie, mais un peu ce genre de choses qui pouvaient effectivement être ce qui est faux et archi-faux encore une fois. Tout le monde est contaminé, c'est même, je le dirais avec un peu d'humour, c'est même le signe d'une bonne santé sexuelle que d'être porteur de papillomavirus. Maintenant, ce qu'il faut, c'est sûrement avoir une immunité, une qualité de vie, éviter de fumer, parce que tout ça réduit un peu vos capacités à vous débarrasser de ce virus.
Merci infiniment, professeur Jean Gondry, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique au CHU Amiens-Picardie et président de la Société française de colposcopie et pathologie cervico-vaginale. Et tout de suite, la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Bonjour Stéphane.
Bonjour Raphaël.
Aujourd'hui, thé, café ou tisane, à quel moment consommer ces boissons? Pour démarrer cette chronique, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les besoins en eau de notre corps?
Alors, il faut rappeler une nouvelle fois, on le fait souvent, que l'eau, c'est la seule boisson qui est indispensable pour le fonctionnement de notre organisme. Chaque jour, de manière naturelle, une grande partie de l'eau qui nous compose s'échappe, à la fois sous forme de respiration, sous forme de transpiration, mais aussi par les urines. Et du coup, pour rester en bonne santé, il est important de compenser cette perte, à la fois par notre alimentation, les aliments vont amener de l'eau, mais aussi en buvant à peu près autour d'1,5 litre d'eau par jour tout au long de la journée. Et c'est vrai qu'en plus de cette eau, eh ben, on consomme tous très régulièrement soit du café, soit du thé, soit des tisanes tout au long de la journée.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ces 3 boissons?
Alors le café est une boisson qui est préparée à partir du grain de café qui provient d'un arbuste, le caféier. Il y a principalement principalement deux variétés de caféiers qui sont cultivées. C'est le Coffea arabica qui va donner ce que tout le monde connaît sous le nom d'arabica, et le Coffea sanéphora qui va donner une autre variété de café plutôt consommée sur le continent africain qui va être le Robusta. Le thé, quant à lui, c'est issu de l'infusion de feuilles séchées d'un arbuste qu'on appelle le THC, qui est appelé tout simplement le théier. Et suivant le traitement des feuilles, on va obtenir plusieurs couleurs qui vont permettre de différencier, c'est les familles qu'on connaît, c'est-à-dire c'est le thé vert, le thé noir, le thé blanc, le thé jaune ou encore le oolong. Et contrairement au thé ou au café, qui sont issus d'un arbuste, les tisanes regroupent une variété très très large de préparations qui vont être soit par infusion, soit par décoction, par macération de feuilles, de racines, d'un très très grand nombre de fleurs et de plantes. On peut pas toutes les citer parce qu'il y en a des centaines, mais on peut quand même prendre comme exemple la verveine, la camomille, la citronnelle, le moringa, la menthe, le gingembre ou encore le Kingeliba, là aussi en Afrique de l'Ouest, qui sont très consommés.
Et alors Stéphane, quels sont les bénéfices et les risques liés à la consommation de thé ou de café?
Alors si on consomme le thé et le café de manière modérée, de nombreux bénéfices pour la santé sont publiés aujourd'hui dans différentes études. Ça va être notamment autour des polyphénols contenus dans ces boissons qui vont permettre, comme certains antioxydants, d'avoir des effets réduisant le risque de maladies d'Alzheimer, de maladies cardiovasculaires, de Parkinson, de goutte, mais aussi, plus surprenant, de calculs à la vésicule biliaire. Donc c'est à peu près les champs où les études ont montré des effets positifs. Là où il faut faire attention, c'est par contre, il peut y avoir des effets négatifs, notamment dans les doses consommées ou les périodes consommées, parce que le thé et le café entraînent une stimulation du système nerveux central qui peut empêcher de dormir ou avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et s'ils sont consommés en même temps que le repas, on sait que ces boissons aussi vont entraîner une réduction de l'absorption des nutriments, ce qu'on appelle une chélation de micronutriments, notamment du fer, et du coup ça peut être un handicap pour les périodes de carence.
Et du coup, quels sont les bénéfices et les risques liés à la consommation de tisane cette fois?
Alors, la consommation de tisane majoritairement présente des bénéfices très positifs pour notre organisme. Alors là aussi, il y en a tellement de sortes, on peut pas tout citer, mais on peut prendre quelques exemples. La tisane au gingembre qui va aider la digestion, la valériane qui va aider à un meilleur sommeil, ou encore la mélisse qui aidera à réduire l'anxiété. Pour les effets secondaires, il y en a très peu. On peut en citer deux principaux. Il faut éviter chez les femmes enceintes et les hémophiles le ginkgo biloba qui va fluidifier le sang. Et là aussi, chez les femmes enceintes, éviter toutes les tisanes issues de plantes qui vont contenir des phytoestrogènes comme la chose ou le gingembre, et qui veulent perturber la grossesse.
Et du coup, quelles sont vos recommandations, Stéphane, de consommation pour ces trois boissons?
En dehors des contre-indications, je conseille une consommation maximum de 3 thés ou cafés par jour qui pourront se répartir entre le matin et le début de l'après-midi, en éloignant un peu la consommation du déjeuner pour éviter ces effets de chélation sur les micronutriments. Alors, par contre, il faudra éviter le café et le thé à partir de 16h ou 17h pour éviter un effet sur le sommeil. Et à partir de 7h, c'est là où il est possible de consommer soit du thé déthéiné, du café décaféiné ou alors des tisanes relaxantes. Et enfin, avant le coucher, il sera possible de consommer une tisane qui favorise le sommeil et qui, là, va détendre et permettre de mieux dormir. Et alors, il y a un point très important aussi qu'il faut mentionner, c'est que ces boissons, on dit souvent, vous pouvez les consommer sans souci parce qu'elles sont acaloriques. C'est-à-dire qu'elles n'apportent pas de calories, elles apportent de l'eau plus un goût. Par contre, on sait aujourd'hui que dans beaucoup d'endroits, le sucre dans ces boissons est vraiment rajouté en grand excès. Donc là, il faut faire attention parce que si on rajoute du sucre et qu'on consomme toutes ces boissons, on va avoir un apport calorique très important qui peut être nocif pour l'organisme. Donc il est important de les consommer dans les doses que j'ai dit et surtout sans sucre ou avec un minimum de sucre pour éviter un apport calorique qui n'est pas indispensable.
Merci Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cetus Amaké, Ophélie Lassen, Mostefa Mostefaoui et Didier Bleu à la réalisation. Demain, nous parlerons de l'AVC, accident vasculaire cérébral à l'occasion de la journée mondiale de l'AVC. On vous donne donc rendez-vous à 9h10 en temps universel. Et d'ici là, bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.